Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité sur Radio Kapi, le gouvernement congolais interdit toute participation de l'équipe nationale de football de la RDC à une quelconque activité ou initiative de solidarité de la Confédération africaine de football CAF jusqu'à nouvel ordre. Décision prise hier lors de la réunion du Conseil des ministres à la suite de ce que le gouvernement qualifie de mauvais comportements dont ont été victimes mercredi à Abidjan les supporters congolais interdits d'accéder au stade avec des calicots dénonçant l'agression rwandaise contre la RDC. Dans la province de la Tchopo, des milliers de familles victimes des inondations vivent dans des conditions difficiles. Des cas de maladies d'origine hydrique dans les entités les plus touchées par cette catastrophe sont signalés à l'aide de la société civile. L'Organisation mondiale de la santé indique que les victimes des déficiences auditives ne cessent de s'enregistrer en révélant que 6 à 10% de la population congolaise souffre de cette maladie. Mais quelles en sont les causes et quelles mesures préventives? Nous en parlons dans ce journal avec notre invité Dr Ismaël Biarouhanga, directeur exécutif de la clinique Centre d'éducation et réhabilitation à base communautaire basé à Aru, en Ituri. Mesdames et messieurs, bonjour. Grâce à Mzati Masanzi, je vous présente ce journal mis en onde par Jean-Claude Nsiala, Mwana Makengo Swalou, ici à Kinshasa. La situation dans l'est du pays a été aussi l'un des points abordés lors de la 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres et du gouvernement Samalou Kondé, notamment la décision du gouvernement d'interdire toute participation de l'équipe nationale de football de la RDC à une quelconque activité ou initiative de solidarité de la CAF jusqu'à nouvel ordre. Noëlla Luzitukabambi.
Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, c'est pour exprimer l'indignation du président de la République face au mauvais comportement vécu à Abidjan par les supporters congolais qui sont allés soutenir les Léopards lors du match de la demi-finale de la CAN contre la Côte d'Ivoire. Il a donc été décidé que les Léopards de la RDC ne devront participer à aucune activité de solidarité initiée par la CAF jusqu'à nouvel ordre. Une manière d'exprimer la désapprobation de la RDC contre ce mauvais comportement à Abidjan mercredi dernier, il a été interdit aux supporters congolais l'accès au stade avec des calicots et autres supports dénonçant l'agression rwandaise contre la RDC, sans oublier la diminution de l'espace réservé aux supporters congolais dans les tribunes. Le Conseil des ministres lance aussi une sévère mise en garde à la télévision France 24 et à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la RDC, dit le compte-rendu. La 124e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé a aussi mis l'accent, selon le compte-rendu du ministre de la Communication et Médias, sur la note d'information de la ministre de la Justice à propos de la levée du moratoire sur la peine de mort. La ministre de la Justice a réitéré la demande au chef de l'État, comme proposée par le Conseil supérieur de la Défense le 5 février dernier, de la levée de cette moratoire sur la peine de mort prononcée ou à prononcer contre tout militaire ou force de sécurité qui se serait rendu coupable d'actes de trahison en cette période où la RDC fait face à une agression du Rwanda via le M23 RDF.
Merci à vous, Noëlla Luzitukabambi, pour toutes ces précisions. Et puis, le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, est arrivé hier à Goma. L'objectif de son séjour au Nord Kivu est de s'imprégner de la situation sur le terrain, alors que le M23 menace plusieurs entités, notamment celle des Sake, située à près de 27 km de Goma. Il a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le coordonnateur des opérations militaires, le général Fal Sikabwe, et le gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Jean-Pierre Bemba a eu une brève rencontre avec les responsables militaires de la MONUSCO avant de présider une réunion de sécurité au gouvernorat des provinces. Rien n'a encore filtré de cette rencontre sécuritaire. Restons au Nord Kivu, où la MONUSCO tient à rassurer les populations de Sake, celles de Goma et ses environs, que l'opération Springbok, menée conjointement avec les forces armées de la République démocratique du Congo FRDC, se poursuit normalement dans les territoires des Masisi et Nyiragongo. Dans une déclaration hier, le porte-parole de la force de la MONUSCO réaffirme la volonté de la mission onusienne et de son partenaire de l'armée congolaise à protéger la ville de Goma et la cité de Sake pour qu'elle ne passe pas sous le contrôle des combattants du M23. Le lieutenant-colonel Kedagi Mensa l'a dit au micro de Gabriel Wamenya.
Conformément à son mandat de protection de la population civile, la force MONUSCO a lancé plusieurs opérations militaires, dont l'opération Springbok. Cette opération a pour objectif la défense des villes de Sake et de Goma. Elle est conduite en étroite collaboration avec les forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO demeure un partenaire des forces armées de la République démocratique du Congo et est actuellement à ses côtés pour repousser l'attaque des M23. Je voudrais enfin rassurer les populations congolaises en général et celles du Nord Kivu en particulier que l'opération Springbok continue et qu'elle défendra les villes de Goma et de Sake à partir de ces différentes positions avancées.
Toujours au Nord Kivu, la police de la MONUSCO UNPOL a remis hier aux autorités congolaises le bâtiment qui va abriter le quartier général de la police nationale congolaise dans la ville de Beni. C'était en présence du vice-gouverneur du Nord Kivu en mission depuis 3 jours dans la région, d'une valeur globale de 91 737 dollars américains. Ce bâtiment basé dans la commune de Bungulu va accueillir les différents services de la police et permet ainsi d'améliorer les conditions de travail de ceux qui ont pour mission de protéger la population congolaise. Blaise Makassi pour le reportage.
Ce bâtiment qui s'adresse sur une superficie de 200 mètres carrés comprend, au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, 14 bureaux, 2 salles d'attente, une salle de réunion, de haut commandement, 2 grandes terrasses, 2 couloirs et des toilettes. Pour le vice-gouverneur du Nord Kivu, la réforme de la police à travers la formation, l'équipement et le casernement doit aller de pair avec l'amélioration des conditions de travail des policiers. Et l'acquisition de ce bâtiment est un pas de plus vers cette amélioration. Et comme le reconnaît le commandant de la ville de Beni, le commissaire supérieur principal Sébastien Kaouman, bénéficiaire de ce quartier général, les nouveaux bureaux permettront à ses collaborateurs de ne plus travailler dans des pièces entassées sans espace. Saluant la collaboration entre la MONUSCO et la police nationale congolaise, le chef de bureau de la MONUSCO Beni, Josiah Obat, estime que ce bâtiment va améliorer la protection des civils, l'un des piliers du mandat de la MONUSCO.
Notre devoir, c'est la protection des civils et la police joue un rôle très très important dans la protection des civils. Et mais, il doit avoir les équipements pour faire le travail.
La MONUSCO a aussi remis, par la même occasion, à la police nationale congolaise de Beni, 5 armoires métalliques, 4 fauteuils de bureau cadre, 5 fauteuils visiteurs, 1 fauteuil de bureau directeur, 10 disques durs externes, un régulateur, ordinateur et souris.
Province de la Tchopo, des milliers de familles victimes des inondations vivent dans des conditions difficiles. Leurs maisons et autres biens de valeur ont été emportés par les eaux. La plupart continuent de passer la nuit dans des pirogues, faute des moyens pour se reconstruire des huttes. On signale des cas de maladies d'origine hydrique dans les entités les plus touchées par cette catastrophe, notamment à Isangi Basoko, Banalia, Yauma et la ville de Kisangani. La société civile alerte les autorités provinciales et nationales afin d'apporter une assistance aux nombreuses familles en détresse. Pierre Kibé Baka, activiste des droits de l'homme et membre de la société civile de la Tchopo, explique au micro de Jacques Mukonkole.
Aujourd'hui, nous avons des milliers et des milliers de victimes des inondations. Et heureusement qu'il y a des organisations caritatives qui prennent certaines de ces personnes en charge. Malheureusement, les conditions d'hébergement ne sont pas vraiment à la hauteur de ce qu'on attendait. Et en deuxième lieu, ce que nous ne comprenons pas, nous suivons à travers les médias que le gouvernement est en train de venir en aide par le ministère des Affaires sociales et Solidarité nationale aux victimes de certaines provinces. Et dernièrement, nous avons même suivi qu'il y a des délégations qui sont allées au Haut-Katanga. Tanga, je pense au site Kivu, mais malheureusement, on se pose la question pourquoi pas celle de la ville de Kisangani, je voulais parler des victimes, parce que vous savez que ici dans la ville de Kisangani, nous n'avons pas seulement les fleuves, nous avons aussi la rivière Tchopo, nous avons la rivière Lomami, et aujourd'hui pratiquement Isangi est dans l'eau, personne ne vient en secours, c'est comme ça que nous lançons un appel urgent au niveau du gouvernement central, à travers le gouvernement provincial, et nous pensons même que parmi les dossiers prioritaires que les nouveaux députés provinciaux doivent prendre en charge, c'est ce dossier-là, parce qu'on ne peut pas laisser toute une population comme ça vivre dans la misère.
En politique, alors qu'a expiré hier le délai de 5 jours accordé aux commissions spéciales de validation des pouvoirs des députés nationaux, seules 21 des 26 commissions ont déposé leur rapport au rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Serge Bahati, qui l'a dit hier, félicite d'ailleurs les élus pour la célérité. Serge Bahati, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous avions convoqué toutes ces commissions à débuter les travaux le 5. Nous leur avions accordé un délai de 5 jours. Nous avons reçu déjà 21 de ces commissions et au moment où nous vous parlons, nous contactons les autres provinces restantes, dont notamment la province du Lualaba, la province de la Lomami, la province du Bawele et de la Mongala. Mais les travaux ont évolué très bien, c'est-à-dire que chaque commission a eu à faire cette vérification, l'analyse des documents. Ce n'est pas quand même un travail si facile, parce qu'il faut quand même analyser la documentation de chaque élu. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion pour le bureau de pouvoir féliciter tous les élus pour la diligence, parce que comme vous pouvez le remarquer, nous sommes vraiment dans les délais et dans les prescrits des textes. Donc l'étape qui va suivre d'abord pour la première mission de la validation, c'est de convoquer la plénière afin de pouvoir restituer le rapport de chaque commission, afin que la plénière puisse entériner. Une fois validés, ces élus auront en fait leur mandat et pourront maintenant passer à l'autre étape qui est de constituer la commission spéciale afin de pouvoir travailler sur l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur.
Entre-temps, au ministère de l'Industrie, signature hier ici à Kinshasa du contrat d'aménagement de la zone économique spéciale de Moussienene entre l'agence des zones économiques spéciales, AZES, et la société d'investissement Tuvali Équateur, Socitec, une entreprise de droit congolais. Moussienene, c'est dans le territoire de Lubero, province du Nord Kivu. Selon Ogi Bolanda, directeur général de l'AZES, la signature de ces contrats rentre dans le contexte du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Paul Matendo.
Selon Ogu Bolanda, l'AZES de Moussienene va favoriser la construction des infrastructures de base dans cette partie de la RDC.
Nous avions suivi ces projets, ça fait déjà plus de 2 ans. Et aujourd'hui, c'était le jour J pour signer le contrat d'aménagement qui va ouvrir la voie à la construction des infrastructures au niveau de cette zone économique spéciale et aussi permettre à l'aménageur, avec nous avons signé, de bénéficier des avantages qui sont prévus dans la loi.
De son côté, l'aménageur de cette ZES appelle les opérateurs économiques congolais à investir dans cet espace afin de bénéficier des avantages fiscaux. Issé Madiona, président du conseil d'administration de la Socitec.
Nous invitons tous les investisseurs, les entrepreneurs qui souhaitent participer au développement de cette région de venir s'impliquer dans la ZES de Moussienene. Il y aura beaucoup d'avantages fiscaux, beaucoup de facilités.
Représentant les ministres de l'Industrie, Julien Paluku, Jean Dieudonné KVC, son directeur de cabinet, estime que la création de la ZES de Moussienene est une réponse aux préoccupations économiques de la population du Nord Kivu.
Et puis, classé comme le plus riche d'Afrique par le magazine Forbes, l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote entend investir en RDC précisément dans les secteurs miniers et agricoles. Il a été reçu jeudi à Kinshasa par le président congolais Félix Tshisekedi. Babel Mpongo Masimango nous en parle.
Le président Félix Tshisekedi a été informé des projets d'investissement dans l'agriculture et les mines en République démocratique du Congo de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote dans le cadre du programme de coopération économique DRC Nigeria Business Council lors d'une audience à la Cité de l'Union africaine, rapporte l'agence congolaise de presse qui cite une source présidentielle. Il s'agissait de voir dans le cadre du DRC Nigeria Business Council qui permet le rapprochement, la facilitation et l'intégration économique entre nos pays, comment on pourrait tirer profit d'un de nos plus grands investisseurs, Aliko Dangote, a déclaré l'ancien président nigérien à la sortie de leur entrevue avec le chef de l'État congolais en soulignant que l'homme d'affaires nigérian compte investir dans ces deux secteurs. Depuis novembre 2022, une coopération économique existe entre les deux pays à travers le programme conjoint dénommé DRC Nigeria Business Council soutenu par Félix Tshisekedi et Olusegun Obasanjo dans la vision de rapprocher davantage les peuples congolais et nigérians et de favoriser leur intégration économique.
Babel Mpongo Masimango sur Radio Kapi. Cette autre nouvelle au Nord Kivu. Les transporteurs et dépositaires des produits vivriers réunis au sein de la coopérative des dépositaires des produits vivriers Codeprovi lèvent leur mouvement de grève. C'est après une réunion organisée jeudi à Butembo entre les membres de cette coopérative et le directeur général de la direction des recettes du Nord Kivu. Selon Katemo Kassai, président de la Codeprovi, les discussions ont abouti à la baisse de 50% du prix des taxes sur l'expertise et les frais terrestres des produits vivriers, soit de 150 à 75 $ américains. D'après lui, cette vaste exaction devrait être officialisée prochainement à travers un arrêté du gouverneur du Nord-Kivu. Rappelons que les transporteurs et dépositaires des produits vivriers réunis au sein de la Codeprovi étaient en grève depuis le 29 janvier dernier pour protester contre ce qu'ils qualifient de hausse à 20% des taxes sur l'expertise et les frais terrestres perçus par la DGRNK.
Actualité internationale.
Des affrontements ont eu lieu hier lors des manifestations à Dakar au Sénégal et en province pour protester contre les reports de l'élection présidentielle. Un étudiant est mort à Saint-Louis en marge d'un rassemblement.
L'invité.
Les victimes des déficiences auditives ne cessent de s'enregistrer dans le pays, indique le dernier rapport de l'OMS qui relève qu'en RDC, 6 à 10% de la population souffre de cette maladie dont les victimes sont de toutes les tranches d'âge. Quelles en sont les causes et quelles mesures préventives? Pour en parler, nous recevons le directeur exécutif de la clinique Centre d'éducation et réhabilitation à base communautaire basée à Awanitouri, Dr Ismaël Biaruhanga, s'entretient avec Marc Marofimbo.
Docteur Ismaël Biaruhanga, bonjour.
Bonjour.
Le problème des déficiences auditives, on en parle encore dans les pays, mais quel état des lieux en faites-vous?
La déficience auditive, d'abord tout, le problème auditif, c'est un problème de santé publique. Si vous regardez le rapport mondial de l'OMS sur l'audition, le problème auditif, c'est environ 6,1% de la population mondiale. Et si vous appliquez cette prévalence à la population de la RDC, environ 90 millions, etc., c'est-à-dire on a environ un grand nombre de la population qui souffre de problèmes auditifs.
Votre organisation est basée à Arou. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre des malades à déficience auditive dans la région et quelle est surtout la tranche d'âge qui en souffre le plus?
Oui, nous n'avons pas une étude faite dans tous les pays et particulièrement dans la région là où nous sommes. Mais néanmoins, par rapport aux données cliniques que nous avons et cette prévalence d'environ 6 à 10% de la population souffre de problèmes d'audition. La tranche d'âge, bien sûr, les enfants souffrent plus et puis l'âge avancé, 50 ans plus. Les enfants, c'est par rapport à toutes les infections respiratoires hautes. Et puis, nous sommes sur la ceinture de la méningite. La RDC se situe sur la ceinture de la méningite. On a beaucoup de cas de conséquences sequelles de la méningite. Nous avons le traitement des antibiotiques. Les gens chez nous, on achète les médicaments par-ci, par-là, des pharmacies sans prescription, tout consort. Donc, on a beaucoup de cas de toxicité médicamenteuse. Donc, on a des médicaments qu'il ne faut pas prendre n'importe comment et il faut les prendre sous prescription, sinon sur des médicaments toxiques au vestibule. Nous avons des problèmes des otites mal soignés, des otites chroniques. Et puis, la tranche d'âge entre 10 et 20 ans, nous avons le problème des écouteurs, la musique. On a trop beaucoup de cas de trauma sonore. Et maintenant, avec l'âge avancé, il y a aussi une presbyopie accoucie. Ça, c'est dû à l'âge. L'audition baisse. Et puis ça s'accentue aussi par ces traumas acoustiques de musique dans nos églises, dans les bars, par-ci, par-là. Donc le problème de santé auditive est devenu un grand problème de santé publique donc qui nécessite une attention particulière.
Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour la prise en charge des patients à déficience auditive?
Pour la prise en charge des malades, en fait, nous commençons cette prise en charge par la prévention. Il faut prévenir d'abord. Il faut mener des campagnes de sensibilisation pour que la population comprenne des dangers qui la guettent. Les enfants qui ont des problèmes d'audition, ils font être dépistés avant le temps, en fait, pour que nous puissions avoir une très bonne prise en charge. Il faut que ça ne soit pas tard quand le cerveau a déjà perdu ou le centre de langage. À part ça, nous soignons toutes les infections, en fait, les pathologies ORL et tout ce qui est lié aux troubles de langage. En dehors de ça, il y a aussi les soins de réadaptation, c'est-à-dire quand un enfant ou un adulte a un problème d'audition, nous pouvons fixer des prothèses auditives pour amplifier le résidu de son qui lui reste afin que la personne soit en mesure d'exploiter, d'explorer son environnement, parler avec les autres. C'est que quand on perd l'audition, c'est le social qui devient problème.
Et sur les plans opérationnels, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face?
Les difficultés ne manquent pas. Il y a des zones où, qui sont inaccessibles. Il y a la situation sécuritaire, parce que ça, c'est un service spécialisé. Nous voulons appliquer cette approche santé communautaire, santé publique. Il faut ramener les soins spécialisés vers les gens qui sont en besoin. On fait souvent des cliniques mobiles. Nous quittons ici, ça c'est notre base. Nous allons à Bunia, nous allons à Kisangani, nous allons à Iziro. On ne peut pas faire l'aventure pour nous engager à faire la route, etc. avec tout ce que nous connaissons. Ça fait que nous soyons stationnaires. Et pourtant, la population de l'Itou, la population du nord-est de la RDC, la population de la RDC a besoin de ces services. Donc la situation sécuritaire, ça c'est une des difficultés que nous connaissons. L'autre difficulté, c'est la pauvreté. Nous faisons face à une population qui n'a pas assez de moyens. Les services spécialités, une prothèse, quand on vous envoie à l'extérieur, ça coûte 1 000 $ ou plus. Mais ici, c'est comme un don qu'on donne aux patients, $150, $200, etc. Et parfois même, le plus démuni, vous donnez ce que vous avez. C'est une forme de soutenir la communauté à travers ces soins spécialisés. Si on se met à suivre l'argent, si on n'a pas l'amour de sauver l'humanité, en fait, ça c'est un service que c'est presque humanitaire. On ne pourrait pas faire ça. Donc, ça sont des difficultés, la pauvreté, la sécurité, et tout ce qui enveloppe une histoire comme ça. Donc, en fait.
Docteur Ismaël Biarwanga, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est à moi de vous remercier.
Notre invité répond aux questions de Marc Maro Fimbo. Avant de mettre fin à cette édition, sachez que Radio Okapi lance une nouvelle émission dédiée aux plus jeunes. L'émission portera sur l'éducation, l'environnement, la protection de l'enfant et l'entrepreneuriat. Réalisée en partenariat avec l'UNICEF, ce magazine baptisé Bano Okapi est à suivre du lundi au vendredi de 15h à 17h sur Radio Okapi. Ce journal a été coordonné par Jacques-Yves Moulima sous la supervision éditoriale de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci de l'avoir écouté.